Et bien, de retour avec Jacques Paradis, notre chroniqueur vin. Bonjour Jacques.
Bonjour Xavier.
Alors, depuis plusieurs années, on utilise souvent le terme terroir dans les publications, les discussions autour du vin. On parle de grand terroir, de vin de terroir, d'expression du terroir. À quoi ça rime, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire exactement, Jacques, par le mot terroir?
Oui, alors, de fait, le mot terroir est très populaire ces temps-ci. Et dans le contexte vinicole, on renvoie vraiment à un territoire considéré du point de vue de la nature du sol, qui est supposé susceptible de conférer un type de saveur ou un caractère distinct aux raisins qu'on y cultive, puis par extension, évidemment, au vin qu'on produit à partir de ces raisins-là. Alors, on vise principalement la composition géologique du sol, du sous-sol, le pH et tout ça. Et puis, l'usage de ce terme-là, terroir, est indissociable aussi du contexte de la création en France du système d'appellation d'origine contrôlée, les AOC. Hein, alors, c'était créé officiellement par décret en 1935. Et puis, les appellations définissent des aires de production, mais aussi des méthodes. On en avait déjà parlé, alors les rendements maximaux des vignes, les additifs qui sont permis, qui sont interdits, etc. Et en ce sens-là, le terroir, ça comprend aussi un peu les traditions vinicoles de l'endroit. Alors en gros, ça nous ramène, sinon c'est le sol d'abord, mais c'est aussi la typicité d'un lieu qui est reflété dans le produit qui est réalisé à cet endroit-là. Dans notre cas ici, c'est le vin.
D'accord.
Et les systèmes d'appellation, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens et ailleurs, fonctionnent généralement à plusieurs niveaux. Alors, il y a des appellations qui sont très larges, très englobantes, comme Bourgogne, par exemple. Mm-hmm. Et puis, des appellations qui sont plus spécifiques, plus restreintes. Et absolument, plus le lieu est restreint, plus les conditions de production aussi sont contrôlées. Et la région qui a sans doute poussé ça à l'extrême, c'est la Bourgogne. Hein, la Bourgogne, alors on a des appellations qui sont communales, des localités, Pommard, Baume, mais on a également des grands crus, 34, et des premiers crus. On a 562 premiers crus qui sont délimités. Alors là, on se retrouve avec des petites parcelles de vignobles qui ont leur statut vraiment spécial de terroir, de unique, si on veut.
La question que je me pose, et puis aussi certains auditeurs sûrement, c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de marketing dans tout ça?
Oui, en fait, je dirais qu'il y a même beaucoup de marketing dans tout ça. Mais ce que je veux souligner quand même au point de départ, c'est que si on entend si souvent parler de terroir, il y a eu vraiment une résurgence dans les années 80-90 en France. Et c'est devenu, ni plus ni moins, un cri de ralliement pour un retour à des pratiques d'agriculture durable. Mm-hmm. Après les excès que l'on a connus dans les années 70, à la suite de l'industrialisation. Alors, on avait des moyens à ce moment-là, par exemple, on sélectionnait des plants de vignes, puis on les clonait. Alors, les plants de vignes qui étaient les plus productifs, qui donnaient le plus de raisins. On avait, c'est à ce moment-là, des années 70, qu'en Allemagne, on a créé également des filtres très puissants qui permettent d'éliminer finalement toutes les bactéries qui pourraient causer des avaries du vin après l'embouteillement et tout ça. Et on a utilisé finalement, sans trop de restrictions, toutes ces nouvelles méthodes-là, au point où on s'est retrouvé à un certain moment où les vins finalement étaient bien faits, il n'y avait pas de défauts et tout ça, mais ils se ressemblaient tous les uns les autres. Alors c'est comme si on avait finalement expulsé tout leur caractère distinct que l'on retrouvait auparavant. Alors c'est dans cette ligne-là également qu'on a introduit en France l'agriculture biologique, la biodynamie. Alors des techniques agricoles qui sont finalement plus douces, qui sont plus respectueuses du sol, qui lui permettent de se renouveler. Et la même chose du côté des pratiques vinicoles aussi. Alors, on entend souvent parler de des vins naturels. Alors, ce sont des vins finalement où il y a une intervention qui est minimale, où on essaie de respecter. Souvent, on va utiliser les levures naturelles plutôt que des levures fabriquées. On va également, il y a des maisons vinicoles où on fait le vin, mais tout passe par gravitation pour éviter justement les gros pompages industriels.
Est-ce que c'est cette spécificité, est-ce que lorsqu'on a un vin d'un vignoble unique, c'est nécessairement, ça veut dire que la qualité est supérieure, est meilleure?
Ouais, je crois qu'il faut pas nécessairement, parce que justement, comme on disait, c'est l'idée d'un lieu restreint et tout ça qui devrait avoir un caractère spécifique. Mais tout dépend aussi de ce que le producteur va mettre dans la production pour respecter ce caractère unique-là. Alors, mais souvent, lorsqu'on a par exemple un vin de vignoble unique, c'est que le producteur a repéré justement des conditions qui sont un peu idéales dans ce site-là. Puis il va essayer par ailleurs d'avoir des pratiques de vinification avec des standards plus élevés, comme par exemple un meilleur tri des raisins, souvent la cueillette manuelle. Alors, pour avoir le meilleur fruit, et puis il va conserver uniquement les meilleurs baies pour justement avoir un vin de qualité supérieure qui, autant que possible, va refléter les conditions où le raisin a été cultivé.
D'accord. Alors, est-ce que vignoble unique, qualité supérieure, ça veut dire vin plus cher?
La plupart du temps, oui. C'est la même chose pour toutes les appellations, que ce soit en Italie, en France ou ici en Ontario. Alors, plus l'appellation est restreinte, habituellement, le prix du vin est plus élevé. Alors, et ça va être... Et lorsqu'on connaît le producteur, on peut savoir si on a affaire, justement, on va avoir affaire à un vin de qualité supérieure. Et, alors, oui, le prix est souvent plus élevé, mais ça vaut souvent le coup si, justement, il y a une occasion spéciale, alors, et qu'on est dans des conditions pour apprécier hein, la qualité du vin. Alors, je pense que ça vaut le coup si on l'apprécie. Et je pense que même ici de l'Ontario ou d'ailleurs, pour souvent 25 et 30 $, on trouve des vins où on peut apprécier une qualité supérieure. Et ce qui est parfois difficile, c'est peut-être de trouver ces vins-là, puisque la plupart d'entre nous, tous les jours et tout ça, on s'offre plutôt des vins de plaisir et on ne recherche pas des vins particulièrement fins. On veut simplement des vins qui sont bien faits, qui sont agréables pour accompagner nos repas.
Oui. Et puis, dépendamment aussi un petit peu de la succursale de la CBU où on se rend, n'est-ce pas, parce que tous les vins ne sont pas évidemment disponibles dans toutes les succursales.
Oui, c'est ça. Mais lorsqu'on veut justement se gâter un peu, alors c'est toujours possible, plusieurs succursales ont des conseillers en produits qui peuvent nous conseiller de bonnes bouteilles. Et puis il y a aussi, pour les gens qui connaissent pas ça, il y a des dégustations commentées dans plusieurs succursales de la LCBO. C'est une formule intéressante auquel j'ai participé il y a quelques années lorsque je suis arrivé en Ontario, et ça continue. Alors, il y a un calendrier qu'on peut trouver sur le site web, et il y a des dégustations habituellement thématiques. Alors, ça peut être, par exemple, les vins d'Argentine ou les chardonnays de climat frais. Et puis, c'est simplement une soirée. Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est pas trop contraignant. Et habituellement, c'est entre 30 et 40 $. Il y a un conseiller en produit, c'est 2 heures et demie. Et puis, c'est l'occasion de déguster habituellement 8 à 10 vins et puis d'avoir justement une présentation qui nous permet là, de porter un peu plus attention puis de l'apprécier. Et puis, c'est l'occasion de faire des découvertes et à ce moment-là, peut-être d'acheter avec un peu plus de confiance là, une bouteille pour une occasion spéciale parce qu'on sait qu'on y a déjà goûté et puis ça nous a plu.
Alors, comme chaque semaine, on finit avec un vin plaisir. Et qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine, Jacques?
Oui, alors... On a parlé des appellations. Alors là, je vais vous proposer un vin d'Alsace. Alors, on est à l'autre extrême parce que l'Alsace s'est différenciée du reste, justement, de la France, non pas en ayant un parcellement de son vignoble. C'est toujours à l'Alsace. Et il y a l'Alsace Grand Cru. Et c'est un Pinot Gris que j'ai regoûté cette semaine et que j'avais déjà goûté il y a un certain temps. Par la maison, je crois qu'on prononce Pfaff. Alors, c'est P-F-A-F-F.
D'accord.
P-F-A-F-F. Et alors, un Pinot Gris d'Alsace. Et puis, pour les gens qui sont familiers plutôt avec les Pinot Grigio d'Italie, alors l'Alsace a vraiment développé un type de Pinot Gris qui est différent, alors qui sont un petit peu plus corsés. Et puis avec des saveurs plus intenses aussi de fruits comme de types comme pêche, par exemple, des saveurs minérales. Alors, c'est vraiment délicieux. Et ça, c'est un vin qui est à peine demi-sec. Alors, il y a une petite touche de douceur, mais c'est un vin qui est équilibré, qui est vraiment agréable à ce temps-ci de l'année.
Alors, est-ce qu'il y a une année particulière que tu voudrais recommander? Ou...
C'est un vin, c'est pas un vin qui est de vintage, juste alors okay. C'est un vin qu'on la CBO offre de façon courante. Et le millésime qu'on a sur les tablettes présentement, c'est 2013.
2013. Alors, oui. C'est le Pinot Gris Pfaff et ça s'écrit P-F-A-F-F c'est 2013.
Ça. Oui.
Eh bien, merci Jacques pour cette chronique vin. Et puis, on te retrouve bien entendu la semaine prochaine, n'est-ce pas?
Très bien.
OK. Au plaisir. Quant à nous, nous restons sur les ondes de Choc FM.